Quand on est croyant, on aime passer du temps, non, avec nos frères et sœurs dans la foi. Qu'est-ce qu'on se sent bien quand on est en compagnie de nos amis de l'Église? On se sent soutenu spirituellement, on se sent un peu fort spirituellement, on se sent en sécurité, on est motivé à servir Dieu quand on est là avec nos amis dans la foi. Comme c'est le cas cet après-midi, hein, mais arrive inéluctablement le lundi matin, où on se réveille tout seul dans son logement d'étudiant, où on arrive tout seul au bureau de l'entreprise, où on attaque une nouvelle semaine tout seul au collège, au milieu d'amis qui ne partagent pas notre foi. Bref, le lundi matin, où tout d'un coup, c'est beaucoup plus difficile d'être un chrétien. Tout d'un coup, on se sent beaucoup moins fort, beaucoup moins en sécurité. Jeudi dernier, avec Jonah, Christophe et Faustine, on est allé dans la rue, jeudi après-midi, dans la rue, aborder les gens pour leur parler tout simplement de Jésus à l'aide de petits sondages. On s'est mis par groupe de deux, donc deux par deux, et le fait d'être ensemble nous motivait à surmonter notre timidité et aborder les gens dans la rue. On a pu avoir en fait de super discussions avec certaines personnes. Et puis hier, en rentrant de Marseille, j'ai passé une heure et demie dans le TGV, assis à côté d'une femme qui se dirige vraisemblablement tout droit vers l'enfer, enfin j'en sais rien, mais bon, selon les probabilités, il y a de fortes chances qu'elle se dirige vers l'enfer, et j'ai pas osé lui adresser la parole. Et au moment où je vous parle, les tentations auxquelles vous êtes régulièrement en proie, votre paresse comme la mienne, dans l'exercice quotidien de la piété, vos doutes, vos luttes, tout ça, ça vous paraît légèrement distant, non? C'est passé au second plan parce que vous êtes au milieu de vos amis chrétiens. Et là, on se sent mieux, on se sent bien spirituellement. C'est un vrai moment de répit, hein, que ce moment passé avec nos amis de l'Église. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que vous allez de nouveau vous sentir spirituellement seul et vulnérable cette semaine. Vous allez vous lever le matin et vous n'allez pas avoir très envie d'ouvrir et de lire votre Bible. Vous allez vous énerver contre votre conjoint ou vos enfants. Vous allez avoir beaucoup de mal à retenir les paroles brusques et blessantes qui vont vouloir sortir de votre bouche. Vous allez rire aux blagues vulgaires de vos collègues ou de vos camarades de classe. Et vous allez être enclin à adopter leur langage grossier plutôt que de leur parler de Jésus. Vous allez vous retrouver tout seul devant l'écran de votre ordinateur le soir. Vous allez avoir très envie de cliquer sur ce lien, sachant pourtant très bien que ça va vous nuire. Quand nous sommes avec nos amis croyants, c'est comme si notre espérance chrétienne, notre relation personnelle avec Dieu était constamment placée sous nos yeux. Quoi de plus naturel que d'être un chrétien quand on est avec nos amis chrétiens? Mais quand Dieu est loin de nos yeux, il est aussi loin de notre cœur, non? Enfin, peut-être que je ne prêche qu'à moi-même hein, ce soir. Et en fait, c'est exactement la préoccupation du psalmiste dans ce texte. Et pour bien comprendre ce qui se passe dans ce texte, qu'on va lire dans quelques instants, il faut se rendre compte de ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce texte, c'est le dernier des 15 cantiques des montées ou des cantiques des degrés, et c'est pas un hasard si ce texte est placé en dernier dans ce cycle. Souvenez-vous, on l'a mentionné à l'occasion, que ces cantiques étaient vraisemblablement chantés traditionnellement lors de pèlerinages qu'effectuaient les Israélites à Jérusalem, où ils allaient, lors de ces pèlerinages, à l'occasion de fêtes spéciales, ils allaient passer plusieurs jours avec beaucoup d'autres croyants pour rendre un culte à Dieu, au temple, dans ce lieu magnifique, majestueux, solennel, qu'était le temple à Jérusalem. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, n'est-ce pas, après avoir été encouragés, édifiés, fortifiés dans leur foi, motivés à servir Dieu, arrivait toujours le moment où ces Israélites devaient ensuite quitter Jérusalem, partir du temple, retourner à leur village respectif pour de longues semaines, retourner à leurs occupations où ils seraient loin du temple, géographiquement déjà, où ils seraient loin du culte de l'Éternel, loin des signes visibles que Dieu avait donnés à son peuple pour attester sa faveur, loin de tout cela. Loin de cette ambiance formidable, où avec nos amis croyants on se sent, peut-être pas des super-héros, mais en tout cas un peu plus fort, spirituellement. Et à ce moment-là, à ce moment précis, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre, ces croyants? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre au moment de partir? Ils ont besoin d'entendre, comme on va le voir, que même quand ils ne sont pas là, même quand ils ne sont pas à Jérusalem, il se passe un truc à Sion. À Sion, c'est la montagne où est construite Jérusalem et le Temple. Il se passe un truc de la plus haute importance, même quand ils ne sont pas là, il se passe un truc de la plus haute importance et qui leur est bénéfique. Un truc dont ils doivent se souvenir et qui prouve que même si Dieu est loin de leurs yeux et donc de leur cœur, toi croyant, toi qui es croyant, tu es en réalité constamment près des yeux de Dieu et près de son cœur. Je crois qu'il y a, là, mine de rien, une leçon qui a vraiment le potentiel de transformer notre piété quotidienne. Alors on va lire le texte. Vous allez voir, c'est un texte très court. Et on va ensuite le regarder plus en détail. Psaume 134, un cantique des montées. Voici, bénissez l'Éternel, vous tous, serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. On va prier avant de continuer. Seigneur notre Dieu, tous les textes qui sont consignés dans la Bible ont été inspirés par toi. Et c'est pourquoi au moment d'en étudier un, nous te supplions de bien vouloir nous aider par ton esprit à comprendre, à recevoir et à mettre en pratique tout ce que tu veux nous communiquer. Amen. Même si Dieu est loin de tes yeux et donc de ton cœur, si tu es croyant, sache que toi, tu es constamment devant les yeux de Dieu et toujours près de son cœur. C'est vraiment la leçon de ce texte, je pense. Et il y a dans ce psaume deux parties, tout simplement. Une première, versets 1 et 2, où ce qui se passe, versets 1 et 2, c'est que les croyants s'adressent aux prêtres, les serviteurs de l'Éternel. Le premier verset désigne ici les prêtres qui sont au service de Dieu dans le temple. Et dans cette première partie, versets 1 et 2, les croyants disent aux prêtres de bénir l'Éternel. Mais dans la seconde partie, verset 3, cette fois, ce sont les prêtres qui disent à l'Éternel de bénir les croyants. Vous avez compris comment s'articulait ce psaume. La première partie, donc, versets 1 et 2, est destinée à nous faire comprendre, je pense, dans un premier temps, que les croyants sont en réalité constamment représentés auprès de Dieu. Et par conséquent, puisqu'ils sont constamment représentés auprès de Dieu, par conséquent, Dieu est constamment attentif aux croyants. Donc je le disais, dans le cadre du chant traditionnel de ces psaumes des montées, ces cantiques des montées, il s'agissait vraisemblablement de pèlerinage à Jérusalem, et donc on arrive à la fin du pèlerinage, à la fin de la fête, et les Israélites sont sur le point de partir. Et à travers ce chant, en tout cas la première partie, versets 1 et 2, les Israélites qui sont sur le point de partir, pour dire au revoir, si vous voulez, aux prêtres, qui eux vont rester sur place, rester au temple, ils leur disent, et ils les enjoignent solennellement, de poursuivre leur travail au temple, jour et nuit, est-il dit dans ce texte. Un travail qui consiste en quoi? Qui consiste à louer Dieu, à le bénir, à élever des mains vers le sanctuaire, c'est-à-dire à prier, donc à louer Dieu et à prier Dieu pour ses prêtres en tant que représentants constants du peuple. Le peuple part, les prêtres restent sur place et ils sont enjoints par les Israélites de continuer, même la nuit. Vous qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits, bénissez l'Éternel, élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. On compte sur vous, prêtres. Nous, on part, on retourne à notre vie quotidienne, à la routine, à nos villages, à nos occupations. Mais on compte sur vous, prêtres, pour continuer votre travail. Les prêtres sont des médiateurs. C'est le sens même de leur vocation, c'est même le sens même du mot prêtre, des médiateurs. Celui qui a écrit ce chant voulait donc que les croyants, de son époque au moins, mais je pense plus que de son époque, au moment de partir, de repartir chez eux, il voulait que les croyants se rendent compte que même lorsqu'ils ne seront pas là, même lorsque Dieu sera en quelque sorte loin de leurs yeux, parce que le temple ne sera pas visible, parce que l'autel et les sacrifices ne seront pas visibles, parce que les prêtres ne seront pas visibles, même quand Dieu sera loin de leurs yeux, eux seront néanmoins constamment représentés par les prêtres auprès de Dieu. Ils ne seront pas loin des yeux de Dieu, vous voyez ? Et quand on se rend compte de ça, ça peut changer beaucoup de choses, en fait. Et je crois que l'auteur de ce cantique, de ce psaume, a bien compris cela. Imaginez que vous soyez fiancé avec quelqu'un dont vous êtes très amoureux ou amoureuse. D'accord ? Et il se trouve que vous devez passer 6 mois sans vous voir, en étant séparés géographiquement. Peut-être pour des raisons professionnelles ou d'études. Et au bout d'une semaine ou deux, étant très pris par votre travail, ben, forcément vos pensées sont un peu moins occupées par votre fiancé. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes au fond moins amoureux ou amoureuse. D'ailleurs, un jour, au bout d'une semaine ou deux, vous lui envoyez une longue lettre d'amour où vous lui racontez toutes vos occupations et même où vous lui composez un magnifique poème. Vous allez à la poste et on vous dit tarif lent ou tarif rapide ? Tarif rapide, bien sûr. Tarif prioritaire, par avion. Et vous faites le calcul. Donc là, ok, sous 2 jours normalement, mon fiancé ou ma fiancée va recevoir la lettre. Ok. Ce jour vient. Et curieusement, ce jour-là, vous pensez beaucoup à lui ou à elle. Parce que vous savez pour sûr qu'il ou elle est en train de lire la longue lettre d'amour que vous lui avez écrite. Et elle est en train, ou il est en train de découvrir votre poème d'amour. Et forcément, par conséquent, cette personne est en train de beaucoup penser à vous à ce moment précis. Votre cœur, ce jour-là, bat un peu plus vite. Vos sentiments pour cette personne remontent à la surface, sont très présents à votre esprit. Et finalement, toute votre journée, qui autrement aurait été tout à fait banale, toute votre journée est conditionnée par le fait de savoir que votre fiancé pense tout spécialement à vous. Pourquoi ? Parce que vous êtes présent ou présente à ses yeux et à son esprit par le moyen de cette lettre. Et de façon similaire, ça peut changer beaucoup de choses à notre vie si nous nous rendons compte que Dieu pense tout spécialement à nous. Mais chaque jour, Dieu pense tout spécialement à nous parce que nous sommes présents à ses yeux et à son esprit par le moyen de quelqu'un qui nous représente auprès de lui. Ce n'est pas une lettre que nous lui aurions écrite, c'est une personne. Depuis la venue de Jésus, ce ne sont plus des prêtres qui représentent les croyants auprès de Dieu dans un temple, mais c'est Jésus lui-même qui représente les croyants auprès de Dieu, le Fils de Dieu qui représente les croyants auprès de son Père au ciel. Ce que je veux dire par là, c'est que dans nos moments de solitude spirituelle, Dieu n'est pas juste là, entre guillemets, conscient de notre situation en raison de son omniscience, le fait que Dieu sait tout, ou en raison de son omniprésence, le fait que Dieu est partout. Il n'est pas juste là en raison de ces choses, mais il est là dans un sens bien supérieur. Il est tout à fait attentif à notre situation, en raison non pas de sa nature seulement, mais surtout en raison de l'amour qu'il porte pour son Fils Jésus, qui nous représente auprès de lui. Si tu es attaché à Jésus par la foi aujourd'hui, quand je dis attaché à Jésus par la foi, je ne parle pas d'une foi qui déplace des montagnes. Je parle d'une foi qui a peut-être la taille d'un grain de moutarde. Si petite soit-elle ta foi, si tu es attaché à Jésus par elle, eh bien même dans tes moments d'incrédulité, même dans tes moments de lutte, même dans tes moments de chute, même dans ces moments où tu as l'impression de t'être éloigné de Dieu d'un million de kilomètres, sache que le Fils bien-aimé de Dieu continue quant à lui. Il continue perpétuellement de te représenter auprès du Père. Nuit et jour. Il loue Dieu à ta place, il le bénit à ta place, il prie Dieu à ta place, de sorte que Dieu continue perpétuellement de te porter son attention paternelle et bienveillante, nuit et jour, sans relâche. C'est curieux, mais le jour où vous savez que votre fiancé est en train de lire votre lettre et votre poème, Ce n'est pas le jour où vous allez être tenté facilement de lui être infidèle. Le jour où vous savez que votre fiancé est en train de lire votre lettre d'amour et votre poème, ce n'est pas le jour où vous allez être tenté facilement de lui être infidèle. Parce qu'il ou elle pense à vous, et vous le savez, et ça change tout à votre journée, n'est-ce pas? Et en quelque sorte, cette lettre fait de vous l'objet de son attention particulière, et vous le savez pertinemment, parce qu'on peut compter sur la poste, non? 2 jours plus tard, elle était arrivée, cette lettre. Et si tu aimes Jésus, mais même si cet amour, il est faible et fragile, mais si tu aimes Jésus, tu fais constamment l'objet de l'attention particulière de Dieu. Ça lui fait beaucoup plus d'effet à Dieu qu'une lettre d'amour, en réalité, qu'une lettre d'amour ferait à votre fiancé. C'est son propre fils unique qui vous représente auprès de lui. Forcément, vous faites l'objet de son attention constante. Tu es devant ses yeux à chaque instant, même si tu n'en as pas l'impression. Vous voyez ce que ça peut changer? De se rendre compte, donc, dans un premier temps, à travers ces 2 premiers versets, que les croyants sont constamment représentés auprès de Dieu et par conséquent que Dieu est constamment attentif aux croyants. Nous avons tellement besoin d'être convaincus, n'est-ce pas? Mais profondément convaincus que Dieu nous porte cette attention constante. Pas juste l'attention d'un juge redoutable qui vous surveille, qui vous épie, qui vous scrute dans le secret de votre vie privée, pas juste l'attention d'un juge redoutable qui vous surveille jour et nuit, mais surtout l'attention dévouée d'un père qui aime son fils. C'est ce fils qui vous représente auprès de lui. C'est ce qui nous amène d'ailleurs au deuxième point. Le verset 3. La seconde partie de ce psaume est destinée à nous faire comprendre, cette fois, que les croyants sont non seulement constamment représentés auprès de Dieu, mais qu'ils sont constamment valorisés auprès de Dieu. Et par conséquent, que Dieu est constamment, non seulement attentif aux croyants, mais aussi propice aux croyants. Donc dans ce texte, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au verset 3, cette fois, ce sont les prêtres qui prennent la parole pour invoquer la bénédiction de Dieu sur les croyants au moment où ils partent, hein, ces croyants qui s'apprêtent à quitter Jérusalem. Et cette fois, l'auteur de ce psaume veut que les croyants se rendent compte que les prêtres qu'ils laissent à Jérusalem, qu'ils laissent au travail dans le temple, les prêtres vont non seulement continuer de représenter le peuple auprès de Dieu, mais ils vont aussi plaider auprès de Dieu pour la bénédiction du peuple. C'est leur cahier des charges, en quelque sorte, à ces prêtres. Enfin, ça fait partie de leur cahier des charges. Ils continuent de représenter le peuple auprès de Dieu, mais ils continuent de plaider auprès de Dieu pour la bénédiction du peuple. Autrement dit, cher Israélite, souviens-toi, lui dit l'auteur de ce psaume, souviens-toi, chaque jour qu'il se passe un truc à Sion, même si tu ne le vois pas de tes yeux, il se passe un truc à Sion. Tu es représenté auprès de Dieu, et non seulement cela, par les prêtres, mais tu es aussi valorisé auprès de Dieu, par eux, par les prêtres. Ils prient en ta faveur, cher Israélite. Ils demandent sans relâche la bénédiction de Dieu sur toi. La bénédiction du Dieu qui a créé les cieux et la terre. La bénédiction de Dieu sur toi depuis le lieu de sa demeure, à savoir, dans ce texte, Sion. Il se passe un truc, chère Israélite, à Sion, même si tu ne le vois pas de tes yeux, sache-le. L'auteur du psaume veut donc que les croyants, malgré la routine de leur vie quotidienne, malgré la distance qui les sépare de Jérusalem et du temple, puissent quand même penser à Sion comme à ce lieu d'où provient perpétuellement la bénédiction de Dieu, comme un fleuve qui coule depuis Sion, auquel ils peuvent s'abreuver même s'ils habitent à des dizaines de kilomètres ou des centaines de kilomètres de là. Le lieu d'où provient perpétuellement la bénédiction de Dieu, par l'intermédiaire des prêtres, qu'il invoque cette bénédiction. Que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Et qu'est-ce qu'ils font les prêtres exactement? Pour que Dieu soit à ce point propice à son peuple, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils offrent constamment des sacrifices. Des sacrifices destinés à représenter l'expiation des péchés du peuple. Des sacrifices qui prennent la place du peuple et qui subissent à la place du peuple, d'une manière visible, le châtiment qui normalement devrait tomber sur les Israélites. Non, on le fait tomber sur des animaux. Et on les tue, et on verse leur sang, et on les sacrifie, on les brûle, pour représenter cette expiation des péchés du peuple. Et non seulement ils font ça, les prêtres, mais comme je le disais aussi, leur cahier des charges consiste à prier constamment pour le peuple. On appelle ça l'intercession. Ils sont là à intercéder pour le peuple. Ils prient en faveur du peuple constamment. C'est leur boulot. Et nous savons que ces sacrifices et cet office des prêtres sont devenus obsolètes. Ils sont devenus révolus, inutiles, le jour où un sacrifice parfait a été offert par un prêtre parfait qui plaide maintenant parfaitement en faveur du peuple. Ce jour, c'est le jour où Jésus est mort sur la croix à la place des croyants. Vous voyez, il est mort comme un animal était sacrifié autrefois. Jésus a été sacrifié sur la croix. Il est mort sur la croix à la place des croyants, de tous les croyants, de tous les croyants de toutes les époques et de tous les lieux. Il est mort à leur place pour expier tous leurs péchés. C'est un sacrifice parfait, offert par un prêtre parfait. Jésus a été à la fois le sacrifice parfait et le prêtre parfait. Mais il n'a pas seulement expié les péchés des croyants, il est aussi ressuscité le troisième jour. Et il est monté auprès du Père, Dieu le Père, où il se tient maintenant à sa droite. Et il plaide parfaitement auprès du Père, maintenant même, en faveur des croyants. Il est le prêtre parfait, vous voyez, idéal. Il ne va jamais être remplacé. Il n'y aura personne d'autre qui lui arrivera à la cheville, personne d'autre qui pourra lui contester la place qu'il occupe aujourd'hui, parce qu'il l'occupe parfaitement. Sacrifice parfait, prêtre parfait, intercesseur parfait. Et maintenant même, il est en train de prier. Maintenant, là, l'heure où je vous parle, Jésus est en train de prier, il est en train de dire ça. Père, toi qui es le créateur des cieux et de la terre, toi le créateur de l'univers, bénis Alex. Depuis ton temple céleste, bénis Thierry, Karine, Maëlys, Séphora, bénis-les, Père, Père céleste, non parce qu'ils le méritent par eux-mêmes, mais parce que j'ai expié leur désobéissance et toi, tu leur as imputé mon obéissance à la place. Donc bénis-le, ils le méritent, pas en raison d'eux-mêmes, pas en vertu d'eux-mêmes, ils le méritent en raison de moi, dit Jésus, en vertu de moi. Et maintenant même, Jésus est en train de prier cela pour vous. Et il ne s'arrête jamais. Si vous êtes attaché à Jésus par la foi, et encore une fois, j'insiste, si petite soit-elle, la Bible n'insiste pas sur la grandeur de la foi, ni sur la quantité de la foi, mais sur la nature de la foi. Si petite soit-elle, cette foi, même si elle est en proie au doute, même si elle est tiraillée, même si elle est fragile, si vous êtes attaché à Jésus par la foi, si vous l'aimez, même si c'est d'un amour imparfait, mais si vous avez envie de l'aimer. Dieu n'a pas seulement pardonné toutes vos fautes, passées et futures, mais en plus, Dieu vous est propice. Il vous est propice, c'est-à-dire que ton compte en banque qui était à découvert d'1 million d'euros, aux yeux de Dieu, il a pas seulement ramené le solde à zéro, il a en plus crédité de 10 millions d'euros. C'est ça qu'a fait Dieu si tu aimes Jésus, si tu es attaché à lui par la foi. C'est ce qu'il a fait pour toi. Il n'a pas seulement pardonné tes fautes et remis ton solde à zéro. Il n'a pas seulement pardonné tes fautes, mais en plus, comme l'apôtre Paul le dit dans l'épître aux Éphésiens, il t'a béni de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, en Christ, en dépit de tes moments de solitude spirituelle. Quand tu as l'impression d'être un mauvais chrétien, quand tu doutes et luttes et chutes, quand tu te détestes toi-même, quand Dieu est loin de tes yeux et de ton cœur, Dieu est quand même en train de dire du bien de toi depuis sa demeure dans le ciel. Dieu est quand même en train de dire du bien d'Alex, et de Tchu, et de Nico, et de Jonah, depuis sa demeure dans le ciel. Il t'est propice, en vertu de Jésus, qui le lui demande. Il t'est propice, en vertu de Jésus, qui le lui demande. Jésus est là, il prie pour toi. Que l'Éternel te bénisse de Sion. C'est ça que Jésus est en train de prier maintenant, que l'Éternel te bénisse de Sion. Lui qui a fait les cieux et la terre. Dans le film Bruce Tout-Puissant, que je ne conseille pas particulièrement, mais dans ce film Bruce Tout-Puissant, il y a une scène très intéressante. Je ne vous raconte pas tout le film, mais le héros du film, Bruce, est un homme odieux. Et un jour, il s'est montré parfaitement détestable envers sa fiancée. Vraiment détestable. D'ailleurs, elle l'a même surpris en flagrant délit d'infidélité. Elle le quitte et Bruce se retrouve désemparé, en proie au remords, mais sans trouver d'espérance. Et bientôt, il découvre que son ex-fiancée, il découvre avec surprise, que son ex-fiancée prie tous les jours pour lui. Et de façon surnaturelle, dans le film, il est capable de voir ce qui se passe chez elle un soir. Elle ne sait pas que lui la regarde, mais il est capable de voir ce qui se passe chez elle un soir dans sa chambre. Et il la découvre assise sur son lit en sanglots. Mais ce ne sont pas des larmes de colère qui coulent, ce ne sont pas des larmes d'amertume qui coule, ce sont des larmes de compassion. Elle ne pleure pas pour elle, elle pleure pour lui, elle pleure pour Bruce, et tout en pleurant, Bruce la voit et l'entend qui prie pour lui, et elle prie en sa faveur, pour que Dieu l'aide, pour que Dieu lui donne des réponses à ses questions, pour que Dieu lui fasse du bien. Et devinez comment elle s'appelle cette femme dans le film. Grace. Grâce. Vous l'avez compris, c'est une image de la grâce de Dieu en faveur des croyants. Une image de Jésus qui plaide pour nous, qui prie pour nous, jour et nuit, malgré notre infidélité. Et même, j'ai envie de dire, à cause de notre infidélité, on a tellement besoin que Jésus plaide pour nous, n'est-ce pas ? Bruce, vous savez, dans le film, il est plus le même homme, après qu'il ait compris que Grace continuait de dire du bien de lui, malgré ses fautes. Il n'est plus le même homme quand il se rend compte de ça. Et toi, cet après-midi, est-ce que tu as compris que dans tes pires moments de solitude spirituelle, Jésus continue d'être le garant de ta bonne réputation au ciel ? Voilà pourquoi je disais que les croyants étaient non seulement constamment représentés auprès de Dieu, mais qu'ils étaient aussi constamment valorisés auprès de Dieu. Valorisés auprès de Dieu. Et par conséquent, que Dieu leur était constamment propice. Propice. Alors, pour conclure, si Jésus est l'objet de ton amour, et encore une fois, je me répète, mais c'est important, je ne parle pas d'un amour extraordinaire, un amour peut-être faible, fragile, mais si c'est Jésus qui en est l'objet, qui en fait l'objet, il y a quelque chose que tu dois savoir et dont tu dois te souvenir en quittant ces lieux, comme les Israélites au moment de quitter Jérusalem et le Temple. Il y a quelque chose que tu dois savoir au moment où tu t'apprêtes à te séparer de tes amis de l'Église, au moment où tu t'apprêtes à affronter une nouvelle semaine dans le monde, au moment où tu t'apprêtes à affronter une fois de plus tes doutes, tes péchés, tes lâchetés, tes mauvaises habitudes, bref, une fois que tu t'apprêtes à affronter une fois de plus ta propre nature, quoi. C'est si simple que ça, hein, c'est aussi simple que ça. Il y a un truc qu'il faut que tu saches. Il se passe un truc à Sion. Il se passe un truc au temple. Même quand tu n'es pas là, un truc de la plus haute importance. Un truc qui t'est bénéfique à toi, chaque jour. Un truc qui prouve que même si Dieu est loin de tes yeux et donc de ton cœur, toi, croyant, tu es constamment devant les yeux de Dieu et toujours près de son cœur. Qu'est-ce que c'est qui se passe à Sion ? Eh bien, Jésus, le Fils de Dieu, est notre souverain prêtre et il accomplit fidèlement son office, sa vocation, son service. Parce que Jésus est auprès du Père et qu'il nous représente, et parce qu'il nous valorise auprès du Père, alors nous pouvons être certains que Dieu pense à nous et qu'il nous porte constamment une attention particulière, remplie d'amour et de sollicitude. Et en plus, non seulement il est attentif à nous, mais en plus il nous est propice. Il nous est propice. Il est attentif à nos souffrances, à nos doutes, à nos découragements. Il est attentif à nos luttes, à nos péchés. Et il continue quand même de nous aimer. Oui, tu es devant ses yeux constamment. Tu es toujours près de son cœur, mon ami. Toi, tu t'éloignes. Mais lui ne te lâche jamais du regard, ni de la main, ni de sa main paternelle. Courage donc. Courage quand tu es seul au lever du lit le lundi et que tu n'as pas envie, franchement, d'ouvrir ta Bible et de la lire. Courage quand tu es seul au travail ou à l'école et que tu es incité à imiter le comportement de tes collègues ou de tes camarades de classe. Courage lorsque tu es seul chez toi et qu'aucun autre chrétien ne va t'entendre t'emporter contre ta femme ou contre ton mari ou contre tes enfants. Courage lorsque tu es seul devant l'écran de ton ordinateur et que tu luttes pour ne pas cliquer sur ce lien qui va blesser si profondément ton esprit et ta conscience. Courage, d'autant plus que Dieu continuera de dire du bien de toi, même quand tu auras chuté. Il continuera de te bénir parce que c'est Jésus, son Fils, qui le lui demande. Il continuera de te réserver ta place dans son royaume. Dans son royaume pour l'éternité. Ça, tu peux le croire, parce que la Bible le dit. Et maintenant, tu dois laisser cette vérité te transformer. Tu es constamment devant les yeux de Dieu et toujours près de son cœur. Amen.